Bonsoir à tous et merci d'être venu écouter Ignacio Ramonet, qui est un habitué de la maison. Je crois qu'il vient de me rappeler, je me souvenais de la présentation de la géopolitique du chaos, mais ça remonte à quelques années. Je crois qu'il est venu de nombreuses fois depuis. Voilà, donc bienvenue à Ignacio Ramonet, qui est à nouveau dans nos murs pour parler d'un sujet assez glaçant, mais assez passionnant, sur la surveillance, l'espionnage, l'empire de la surveillance. Donc un ouvrage chez son éditeur Galilée, avec un texte de sa main, et puis deux entretiens, un avec Julian Assange, que vous connaissez, qui est donc toujours reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres, voilà, qui est le fondateur de Wikileaks, et puis avec le philosophe et sémiologue américain Noam Chomsky, que je crois Ignacio Ramonet connaît très bien. Une question que je lui poserai, mais il répondra peut-être rapidement, c'est que ce travail est placé un petit peu je dirais, sous le, pas le patronage, c'est pas le mot qui convient, mais d'Edward Snowden, le grand lanceur d'alerte, réfugié aujourd'hui donc en Russie, voilà, et qui évidemment, alors je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas d'un entretien avec Snowden, mais c'est nourri quand même, le bouquin est nourri évidemment de l'aventure de Snowden et de ses nombreuses révélations. Alors, deux mots sur Ignacio Ramonet. Hein, vous avez dirigé très longtemps le monde diplomatique. Je crois, si les informations sont toujours exactes, je crois que vous dirigez toujours l'édition
Oui, l'édition espagnole. Oui.
espagnole du Monde Diplo. Vous êtes éditorialiste dans de nombreux journaux que je ne citerai pas, mais un petit peu partout dans le monde. Vous avez été parmi les fondateurs d'ATTAC, l'association qui s'était montée contre pour la taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières. Vous avez été un des fondateurs aussi du Forum social mondial de Porto Alegre. Et vous avez un observatoire international, pardon, des médias. Voilà. Je mentionne aussi une association qui s'appelle Mémoire des luttes, à laquelle vous tenez beaucoup, je crois. Voilà. Alors, voici rapidement donc présenté. Alors, l'empire de la surveillance. C'est vrai que la lecture de ce livre est assez glaçante, puisque vous nous décrivez un système de surveillance planétaire. Hein, je n'ai pas d'autre mot, planétaire, dont les tentacules aujourd'hui s'insinuent non seulement chez les dans la vie supposée des terroristes, mais dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Ignacio Ramonet, c'est est-ce qu'aujourd'hui en 2016, est-ce que la vie privée, c'est encore possible?
Voilà, d'abord, Christophe, je voulais vous remercier d'avoir accepté de présenter le livre et je voulais remercier la librairie Mola de m'avoir invité une nouvelle fois. Effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je viens présenter des livres, j'en ai présenté 7 ou 8, en particulier sur toujours des essais dans la continuité du travail que nous faisons avec Galilée. Et je voulais vous dire aussi que, en effet, ce livre a été déclenché, en quelque sorte, par les révélations d'Edward Snowden. Hein? Comme on sait, Snowden n'a pas écrit de livre. Il a en
Donc
quelque
Snowden,
sorte.
dont on peut rappeler qu'il est donc qu'il a
Voilà, Snowden est un ancien agent, hein, de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, qui est la grande agence de surveillance américaine, bien plus puissante que la CIA. La NSA est très bien décrite, enfin amplement décrite, je ne sais pas si bien, mais en tout cas amplement décrite dans le livre. Et Snowden, en tant qu'agent, a été en quelque sorte témoin de tellement de violations des droits des individus qu'il a décidé à un moment de quitter l'agence et de révéler ce que cette agence faisait. Hein. Il a donc fui. D'abord à Hong Kong, et les États-Unis immédiatement l'ont déclaré l'ennemi public numéro un en raison des révélations très importantes qui ont été considérées comme, disons, une trahison. Or, la trahison aux États-Unis est punie par une loi, la loi de 1917 sur la trahison, qui condamne ceux qui sont condamnés, en quelque sorte, pour fait de trahison, à la peine de mort. Hein. Donc, les États-Unis ont essayé de le récupérer une fois qu'il s'est enfui. Il était en clandestinité à Hong Kong. Et Wikileaks a mis en marche un système pour l'exfiltrer de Hong Kong et le faire arriver à Moscou, où les autorités russes l'ont mis sous protection. Vous vous souvenez qu'il y a eu l'incident où on a cru à un moment que Snowden allait quitter Moscou, l'incident avec le président de la Bolivie, Evo Morales, qui était allé en visite officielle à Moscou Et à son retour, les autorités américaines craignaient que Evo Morales n'amène, puisque l'Équateur avait protégé Assange, pensaient que Evo Morales pouvait protéger et emmener avec lui Edward Snowden. Et alors, les autorités françaises, italiennes, espagnoles, portugaises ont fermé l'espace aérien et n'ont pas laissé passer l'avion du président Morales, qui évidemment va contre les lois internationales. Et l'avion a été obligé de se poser à Vienne, où, d'une façon indirecte, des diplomates occidentaux sont quand même montés dans l'avion pour voir si Snowden s'y trouvait. Donc vous voyez que les États-Unis étaient prêts à aller très loin pour s'emparer de Snowden. Alors ce que je disais, c'est que Snowden n'a pas écrit de livre. Il a, en quelque sorte, dévoilé ce qu'il avait à dire, une partie, parce qu'il a encore beaucoup de fichiers, il n'a pas tout à fait dévoilé. Il a fait des révélations à un journaliste, Glenn Greenwald, un journaliste américain qui vit au Brésil et qui a écrit un livre qui a été publié en français, que je cite abondamment, qui s'appelle « Nulle part où se cacher », qui raconte l'histoire de Snowden et d'une partie des révélations de Snowden. Et d'autre part, Snowden a aussi révélé ce qu'il savait, hein, une partie de ce qu'il savait, à une documentariste américaine, Laure Poitras, qui a fait un documentaire l'année dernière qui s'appelait Citizen Four, que vous pouvez trouver en DVD. Je ne sais pas s'il y a eu un département DVD ici, mais il est sans doute à votre disposition, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire l'année dernière, et qui révèle, qui raconte ça, Snowden parlant. Donc c'était un peu, disons, inutile d'aller voir Snowden, puisqu'il avait fait ses déclarations déjà, et je les utilise pas mal dans le livre.
Ceci donc dit, vraiment, il est présent à toutes les pages de ce livre.
Il est présent très souvent, et le livre a été déclenché par ça. Et d'autre part, moi j'ai de bonnes relations avec un cinéaste américain qui s'appelle Oliver Stone, et Oliver Stone achève en ce moment un film de fiction sur Snowden, avec Snowden, et qui est un peu la mise en scène des révélations de Snowden. Le film n'est pas sorti, mais il est sur le point de sortir.
Alors, on va parler des lanceurs d'alerte après, mais je reviens à ma question initiale sur ce système de surveillance planétaire, donc que vous décrivez abondamment. C'est un système, donc on va y revenir, tentaculaire. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui protéger sa vie privée? Parce voilà. Est-ce qu'on est à l'abri, vous, moi, d'un espionnage plus ou moins intéressé, plus ou moins de telle ou telle agence occidentale ou pas d'ailleurs.
Oui, occidentale ou pas, bien sûr. Dans le livre, c'est une question à laquelle répondent en particulier les fondateurs d'Internet, c'est-à-dire Tim Berners-Lee, d'une part, et Vince Cerf, et qui nous disent non, la vie privée, voilà, ça fait partie d'une autre époque. À l'époque d'Internet, il n'y a plus de vie privée. Hein? Et pour quelles raisons? Moi, j'essaie de développer ça pour deux raisons. D'une part, parce que, comme vous le dites, il est très facile maintenant de nous mettre sous surveillance. Il est très facile. Nous avons presque tous maintenant un téléphone dit intelligent, hein, un iPhone ou un smartphone. Voilà. Le smartphone, c'est une machine, c'est Snowden qui l'explique. C'est une machine qui peut être, même si vous l'éteignez, même s'il est éteint, eh bien, il peut être activé de l'extérieur. Une fois qu'on connaît votre numéro, on peut entrer dedans et on peut l'activer. Et le téléphone va servir en quelque sorte de boîte d'enregistrement. Quelqu'un de l'extérieur peut suivre notre conversation. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous fréquentez des milieux où il y a des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des responsables politiques, des responsables syndicaux, etc., que quand les réunions sont importantes, bien, les téléphones, on les laisse dehors. Snowden dit, attention, si vous les laissez dehors, il faut les laisser bien loin. Parce que, avant, quand les téléphones avaient des batteries, on pouvait supprimer la batterie, et en supprimant la batterie, le téléphone, alors là, ne pouvait pas être activé. Mais comme vous savez, ces téléphones n'ont plus de batterie. Enfin, on ne peut pas enlever la batterie. Hein. La batterie est incorporée à l'intérieur, on ne peut plus la sortir. Donc, ces téléphones, dit Snowden, on ne peut réellement les isoler qu'en les mettant dans un frigo. Si vous le mettez dans un frigo, le frigo est un grand isolant, hein, et donc, par conséquent, à l'intérieur du frigo, on n'entend pas quand on est à l'intérieur d'un frigo.
Bon, ça c'est une des premières réponses à la dernière question sur quoi que pouvons-nous faire.
Bon, voilà, c'est une petite recette. Mettez les téléphones dans le frigo quand vous avez des conversations, disons que vous ne voulez pas qu'elles soient entendues. Et par ailleurs, bien sûr, comme tout l'arsenal de surveillance s'est développé depuis les attentats du 11 septembre 2001, et au fur et à mesure qu'il y a eu des attentats dans un certain nombre de pays, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France, bien sûr, tragiquement, en Turquie, etc., les pays se sont dotés précisément de lois qui ont favorisé la surveillance, avec cette idée, qui est une idée évidemment qui parcourt tout le livre, si on veut avoir plus de sécurité, il faut mettre tout le monde sous surveillance. Voilà, c'est simple, tout le monde doit être surveillé. Alors, pas seulement, Christophe, surveillé par l'État, parce que l'État, bien sûr, a ses propres agences de surveillance, mais vous imaginez bien que mettre les 60 ou 65 millions de Français sous surveillance nécessite que 30 millions de surveillants surveillent 30 millions de surveillés, hein, pour que ça fasse 60 millions. Et pratiquement, enfin, il faudrait beaucoup de surveillants. Le budget de l'État n'y suffirait pas. Je donne des chiffres, d'ailleurs, qui ont bien montré. N'oubliez pas que les attentats du 13 novembre, tragiques, odieux, terribles, se sont quand même produits après l'adoption de la loi renseignement. Les attentats de janvier contre Charlie Hebdo se sont produits avant la loi renseignement. Et on a voté la loi renseignement, qui a été votée en juin de l'année dernière, pour pouvoir empêcher des attentats. Et notamment la loi renseignement est une loi qui permet aujourd'hui, qui donne à l'exécutif beaucoup de latitude en matière de décision de surveillance. Aujourd'hui, en dernière instance, c'est le Premier ministre qui décide qui doit être surveillé, non pas un juge. Ensuite, le juge va suivre, bien sûr, nous sommes en démocratie. Mais ça n'a pas empêché les attentats du 13 novembre. Hein. Mais l'idée, c'est, si on veut un maximum de sécurité, il faut un maximum de surveillés.
Bon, vous êtes en train de nous dire qu'on perd sur les deux tableaux. On perd sur le tableau de la liberté et on perd sur le tableau de la sécurité, c'est ça ?
Oui, on perd sur le tableau de la sécurité parce que effectivement, les gouvernants passent avec nous une sorte de marché, hein, que Obama, dans un discours célèbre l'année dernière, a bien formulé. Il a dit on ne peut pas, les citoyens ne peuvent pas aujourd'hui, dans les circonstances que nous vivons, c'est-à-dire nous sommes en danger, nous sommes attaqués, etc. On ne peut pas vouloir 100% de liberté et 100% de sécurité. Il faut céder une part de votre liberté pour que nous vous garantissions un maximum de sécurité. Un maximum n'est pas la sécurité totale.
C'est un discours qui passe relativement dans l'opinion, puisque quand on fait des sondages, une grosse majorité des citoyens sont prêts à abdiquer une partie de leur liberté. Alors ce que vous dites, c'est qu'ils ne savent peut-être pas à quel point ils perdent leur liberté, leur vie privée. Et là, c'est là que le système que vous décrivez est assez glaçant. Alors, comment dirais-je, ça commence il y a déjà longtemps, puisque ça commence pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça commence pendant la guerre froide. Mais à l'époque, c'est purement militaire, cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on passe de la surveillance purement militaire, au fond l'espionnage classique, hein, on y avait un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, Le Pont des Espions. Bon, on est dans le monde de la fin de la guerre et de la guerre froide. Bon, c'est des affaires d'espions, hein, les secrets nucléaires, les trucs. Bon, on n'est plus du tout là-dedans. Qu'est-ce qui a fait basculer? Pourquoi est-ce qu'on est passé de l'espionnage militaire à un espionnage massif où on espionne le boulanger du coin, quoi? Voilà.
Alors, c'est-à-dire, dans le livre, j'essaie de faire, pour qu'on ait une idée, que ce soit à la fois pédagogique, pour que ce soit cohérent et qu'on comprenne un petit peu cette démarche-là, c'est-à-dire l'histoire de la surveillance. Parce que la surveillance a une histoire. Hein. On ne pouvait pas surveiller avant. La surveillance, en fait, commence, la surveillance d'État commence comme... Michel Foucault nous l'a appris. Moi, j'ai été étudiant de Michel Foucault. J'ai suivi ses cours, notamment sur la société punitive, qui ont donné lieu ensuite à son livre célèbre « Surveiller et punir ». Et la surveillance commence avec l'invention de la prison. La prison n'existait pas. La prison est une invention du 19e siècle, n'est-ce pas? Et la détention de masse, en quelque sorte, mettre tous les marginaux, les délinquants, etc., les criminels, hein, et leur faire payer du temps contre leurs crimes, ça, c'est une idée évidemment très moderne, très récente. Hein. Le châtiment, avant, c'était celui qui est appliqué encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Vous avez fait. Vous avez volé, eh bien on vous coupe la main. Voilà, hein, la loi du talion, globalement. Ça, c'est ce qui se faisait tranquillement dans tous les pays, notamment également dans les pays occidentaux. Donc l'invention de la prison, c'est l'invention de la surveillance. Hein. Et si vous prenez, je donne un exemple qui n'est pas dans le livre, mais évidemment j'ai cherché. Par exemple, si vous lisez un livre qui est un livre qui est une réflexion sur l'autorité de l'État et l'importance de l'État dans le fonctionnement de la politique, qui est Le Prince de Machiavel, bien, et, vous ne trouverez pas le mot surveillance. L'idée de surveiller ne figure pas dans Le Prince de Machiavel. Vous voyez ? Donc, cette idée de surveiller est une idée de l'État moderne. Pourquoi ? Parce que l'État moderne est un État qui veut contrôler l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi, par exemple, même les documents d'identité sont extrêmement récents. Jusqu'à la Première Guerre mondiale...
Il y a d'ailleurs certains pays où il n'existe toujours pas.
En Angleterre, il n'existe toujours pas. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, si vous avez des grands-parents ou des arrière-grands-parents, hein, des traditions dans la famille, vous verrez, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les gens voyageaient sans passeport. Ça n'existait pas, les passeports. Il y avait ce qu'on appelait une lettre de voyage. Quand vous devez voyager, on faisait une lettre qui vous autorisait à voyager. Donc les documents d'identité...
Par contre, quand Stefan Zweig veut quitter l'Allemagne nazie, il a besoin d'un passeport.
Oui, là, nous sommes déjà dans les années 30, ouais, effectivement, ouais. Etc. Mais je me souviens d'une conversation avec Jorge Luis Borges, par exemple, le grand écrivain argentin, hein, l'auteur de fiction. Borges lui-même rappelait que quand il était argentin et sa famille avait l'habitude de passer les étés en Suisse... Et il disait quand nous voyageons, nous n'avions pas de passeport, bien entendu. On avait une lettre de voyage. Hein. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que les documents d'identité, la photo d'identité, les empreintes digitales, la description, tout ceci, les fiches, bon, tout ça, c'est fait tout au long du 19e siècle. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est longuement expliqué dans le livre, mais ce n'est pas la peine de s'attarder
ici. Alors là,
ici,
on passe à la vitesse supérieure.
On passe à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que, en particulier pouvoir l'emporter sur l'Allemagne nazie, à un moment, il faut casser un code que en particulier l'amirauté allemande utilise.
Enigma. Alors, il y a un très bon film là, qui est sorti là-dessus l'année dernière.
Films, ouais. Absolument, ouais. Hein, qui sont cités dans le livre. Enigma, voilà. Et ce code, Enigma, avec lequel l'amirauté allemande communique avec les sous-marins, qui détruisent les cargos qui approvisionnent l'Angleterre, eh bien, lorsque les Allemands réussissent avec une équipe, lorsque les Anglais, avec une équipe faite d'Américains, de Polonais, etc., réussissent à casser le code Enigma, à ce moment-là, voilà, il y a l'idée qu'on peut surveiller les communications.
Et c'est d'ailleurs la naissance de l'ordinateur, hein, je crois.
C'est la naissance de l'ordinateur, n'est-ce pas ? Et c'est la naissance de l'informatique. Et donc, à partir de là, vont se créer ces accords, les accords UKUSA, les accords UKAI, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui décident, après la guerre, de continuer de collaborer ensemble pour surveiller les communications de l'Union soviétique. Et très vite après, on passe aux accords...
Les soviétiques qui sont d'ailleurs pas manchots dans le domaine. Hein.
Non, bien sûr. Alors, les soviétiques qui eux-mêmes utilisent, bien entendu, des systèmes de surveillance. Il suffit de regarder, je ne sais pas si vous avez Netflix, mais j'imagine que certains d'entre vous ont Netflix, eh bien, il y a une série remarquable qui s'appelle The Americans, hein, les Américains, et qui est une série sur un couple, voire une famille d'espions soviétiques, mais totalement immergés, totalement américanisés, au point que les enfants du couple ne savent pas que ses parents sont espions et qui, dans les années 70, espionnent les États-Unis. Et il y a comme ça beaucoup d'Américains et communiquent également avec des systèmes de chiffrage, etc. Donc les fictions sur ce sujet abondent, mais ensuite...
D'où une immense parano quand même, une immense paranoïa.
Hein. Une immense paranoïa, mais comme vous dites, c'était à l'époque, c'était voilà, on surveille les espions, et le contre-espionnage surveille les espions de l'autre, sauf que, voilà, dans les années 50, se met sur pied le système échelon, qui est également raconté ici. 5 États anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, créent un système de surveillance qui va s'appeler les Five Eyes, les 5 yeux, voilà, et mettent sur pied le système échelon qui va permettre peu à peu, parce que pour trouver les espions qui sont, et c'est pour ça que je me réfère à cette série américaine, qui sont comme un poisson dans l'eau, qui sont totalement immergés dans la société américaine, eh bien, il faut surveiller pratiquement tout le monde. Et donc, on décide de surveiller les communications téléphoniques, etc. D'autant que le FBI, à l'époque, pratique également dans les années 40, début des années 50, la chasse aux sorcières contre les communistes. Et donc, là aussi, hein, le FBI va développer une surveillance de toutes les communications, notamment téléphoniques, dès les années 40. Les compagnies téléphoniques américaines sont obligées de remettre au FBI, en secret, sans que les gens le sachent, de remettre ce qu'on appelle les FADET aujourd'hui, c'est-à-dire c'est cette liste que vous recevez de tous vos appels, de tous vos SMS, de toutes vos consultations payantes, hein, et, ou qui entrent dans votre forfait, et aux autorités, au FBI, et qui, de cette manière, va avoir un regard sur l'ensemble des communications des Américains sans que ceux-ci le sachent.
Alors, vous avez dit que cet empire était planétaire, mais vous dites aussi d'abord que c'est un empire américain. Alors, on va peut-être, certains vont dire, mais Ignacio Ramonet, il est obsédé par l'impérialisme américain. Non. Mais je dois dire que effectivement, sur ce sujet-là, ça a une bonne part de vérité, puisque vous vous rappelez que la plupart, enfin même peut-être la quasi-totalité des très grandes entreprises de l'Internet, oui. Et aussi l'immense majorité des très grandes agences de renseignement sont américaines. Donc, cet empire de la surveillance, il a un noyau qui est un noyau américain, même si évidemment toute la planète s'y est mise, enfin tout le monde, oui. En tout cas tous les États importants se sont mis au diapason, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, vous voyez, parce que je raconte ce qui se fait en Angleterre, en France, alors, en particulier avec la loi renseignement.
Alors donc les États-Unis quand même, c'est le cœur du réacteur.
Ben, c'est-à-dire les États-Unis ont été les premiers par ce système-là, les États-Unis et ces 5 puissances et les 4 autres puissances anglo-saxonnes à mettre sur pied le premier système planétaire de surveillance, voyez-vous. Échelon est quand même un système qui est resté pendant 40 ans totalement secret. Les gens ne savaient pas que leurs conversations
étaient... Alors c'était des radomes avec des antennes et puis des satellites, hein, c'est ça.
Donc, tout mais même ça... avant les satellites, oui. Parce que les satellites c'est des années 60, hein, fin des années 50. Mais avant, on surveillait le câble sous-marin, voilà, comme donc, aujourd'hui.
C'est ça.
Comme aujourd'hui d'ailleurs. Puisque aujourd'hui, si vous voulez, on est revenu. On croit toujours que les communications se font par satellite. Mais aujourd'hui, les communications, notamment d'Internet, quand plus vous voulez avoir c'est-à-dire du contenu. Hein,
il faut des très gros câbles.
Hein. Il faut des très gros câbles, bien entendu, hein, parce que par satellite.
Ça passe pas.
Ça passe pas. Hein. Donc on est revenu au câble. C'est pour ça, d'ailleurs, que les câbles opérateurs sont aujourd'hui si puissants. Hein. La preuve. En France, l'entreprise Numéricable de M. Drahi qui est devenue si puissante maintenant. Voilà, parce que les opérateurs du câble, il y a 20 ans, tous les opérateurs du câble vendaient leur petite entreprise parce qu'on passait par le satellite. Aujourd'hui, au contraire, les câbles opérateurs se regroupent, hein, et ils sont parce que le haut débit, le très haut débit, ne passe que par le câble. Et donc, on tend du câble qu'on pose sur le fond des océans. Eh bien, ça existait, évidemment, dans les années 40, puisqu'on ne pouvait pas téléphoner en Amérique, et ça, on le fait depuis les années 1920, etc. On téléphone en Amérique que par le câble. Et le câble est, en quelque sorte, écouté par les services de sécurité, non seulement américains, je répète, mais australiens, canadiens, néo-zélandais, etc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous expliquez bien, c'est que dans le cas américain, il y a à la fois beaucoup d'agences de renseignement. Il y a la NSA dont vous avez parlé, mais c'est pas la seule.
Il y a la CIA.
Il y a la CIA et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. dont certaines d'ailleurs sont à peine connues aujourd'hui.
Sont à peine connues.
Et puis il y a de l'autre côté le civil, c'est-à-dire il y a l'internet, Il y a les entreprises de l'Internet, il y a les FAMAS, pas les FAMAS,
les GAFAM.
Les GAFAM, pardon. GAFAM, donc c'est les initiales, l'acronyme de toutes les très grosses entreprises du net, Google,
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
Bon, donc c'est donc vraiment un conglomérat donc, d'entreprises privées. Mais,
ce sont les plus grandes entreprises
du net. Alors, dans quelle mesure, et c'est là que le nœud du système, c'est les connexions qui peuvent exister entre ces agences militaires, ces agences de l'administration d'État américaine, et puis le milieu privé. Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a des relations organiques qui sont assez anciennes. Voilà. Vous avez parlé d'ATT. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre, par exemple, entre Google et l'administration américaine, par exemple?
Voilà. Alors, c'est tout à fait le sens de l'entretien avec Julian Assange. N'est-ce pas ? J'ai été rencontré Assange, je le connaissais déjà, mais je suis allé m'entretenir avec lui
à l'ambassade d'Équateur.
À l'ambassade d'Équateur à Londres. Hein, il est, je suppose que certaines personnes connaissent Londres et connaissent Harrods à Londres. Hein, l'ambassade d'Angleterre se trouve juste à côté de Harrods, hein, oui. Derrière Harrods. Hein, donc au premier étage, c'est-à-dire que les personnes qui vont chez Harrods voient la pièce où est. Oui,
Assange. Ceci dit, Julian Assange, il ne va pas faire ses courses chez Harrods. Hein,
non, malheureusement, il ne peut pas sortir. Oui. Il ne peut pas sortir et ça va faire 4 ans qu'il est là. Donc je suis allé le voir, en particulier parce que Assange a dénoncé très concrètement dans un de ses derniers ouvrages, son avant-dernier ouvrage, le dernier publié en français, il a dévoilé et démontré l'articulation entre Google en particulier, hein, puisqu'il a rencontré celui qui était à l'époque son président directeur général, qui était Eric Schmidt, et l'articulation entre Google et l'appareil d'État américain, et notamment le département d'État. Hein, c'est-à-dire que Google, et ce que dit Assange, c'est Google informe les États-Unis. Bon, ça on le savait, mais ce que je veux dire, c'est que là, Assange explique très bien lui-même comment ça se passe grâce aux informations qu'ils ont. Maintenant, Christophe, ce que vous dites est très important. Parce que ce que je veux dire dans le livre, c'est que, à la limite, même si la surveillance est récente, même si la surveillance est organisée, notamment pendant la guerre froide, ça a été une affaire d'État, et même si nous sommes tous, en quelque sorte, dans la crainte d'une surveillance des appareils d'État, des agences de surveillance, aujourd'hui, la grande surveillance, ce ne sont pas les États qui la pratiquent. Ce sont les entreprises de communication, les entreprises d'Internet, auxquels nous livrons volontairement nos informations. Personne ne nous oblige à acheter un téléphone. Personne ne nous oblige à acheter un ordinateur. Personne ne nous oblige à acheter une tablette. On l'achète parce qu'on croit que de cette façon, on va élargir, disons, le périmètre de notre liberté. On va pouvoir, voilà.
Ce qui est vrai dans jusqu'à un certain point.
Ce qui est vrai, bien entendu, dans un certain point. Et ce qui est vrai en soi, d'ailleurs. De la même manière qu'Internet, nous considérons qu'Internet est une avancée. N'est-ce pas ? C'est une avancée. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans Internet ? Est-ce qu'on vivrait de la même manière ? D'ailleurs, voilà ce qui se passe quand nous n'avons pas Internet, ou qu'on n'a pas de Wi-Fi, quand nous n'avons pas assez de débit, etc. On se sent totalement frustré. Hein ? Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Internet, d'une part, lorsqu'il est apparu, le web a été inventé en 1989. Internet était une invention plus ancienne, mais réservée à quelques savants,
aux universitaires,
hein, en particulier aux scientifiques. Bon, mais quand le web a été inventé, voilà, en 1989, eh bien, voilà, l'usage d'Internet avec toutes ses possibilités s'est étendu énormément. Aujourd'hui, la moitié pratiquement des habitants de la planète, 3,5 milliards d'habitants, utilisent Internet, et par conséquent, nous avons pensé que Internet c'était aussi une façon de nous libérer, parce qu'on accédait à des champs de savoir, à des champs de connaissances, etc., à des champs d'information qui nous permettaient par ailleurs de nous libérer des monopoles locaux. Parce que, quel que soit le pays où on pouvait habiter, il y avait des monopoles médiatiques, des concentrations de la télévision, des journaux, des radios, etc. Donc, par Internet, je pouvais m'évader. Eh bien, ce qu'il faut savoir, et que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que Internet, ce n'est plus un élément d'éclatement. Voilà. Ce n'est plus aujourd'hui quelque chose qui me permet de m'évader. Bien sûr que ça me permet de m'évader. Mais en réalité, je ne peux pratiquement pas utiliser Internet sans passer par l'une de ces entreprises dont on a parlé tout à l'heure.
Et donc c'est là qu'on parle de recentralisation de l'Internet.
Voilà, c'est là où le phénomène d'aujourd'hui, dont on n'est pas conscient, c'est la recentralisation
de l'Internet. Parce qu'au départ, les pionniers d'Internet disent
c'est un objet de libération.
On parlait beaucoup des logiciels libres à une époque.
Alors les logiciels libres, c'est autre chose, n'est-ce pas ?
Oui. Enfin, en tout cas, on parlait beaucoup de l'espace de liberté sur Internet. Mais apparemment, vous n'y croyez pas beaucoup. Hein.
Voilà, l'Internet, c'est un produit de l'université, c'est un produit d'une pensée libertaire et libre. Hein. Aujourd'hui, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas utiliser Internet. L'immense majorité des personnes qui utilisent Internet passent par l'une de ces entreprises que nous avons appelées les GAFAM. Voilà. Vous êtes obligé de passer par l'une ou par l'autre. La principale d'entre elles étant Google, puisque Google est aujourd'hui l'entreprise la plus importante du monde en termes de capitalisation
boursière. Aujourd'hui, c'est la première capitalisation boursière du monde.
Première capitalisation. Or, est-ce que vous avez acheté quelque chose à Google ? Non. Parce que ce que vous utilisez de Google, c'est son moteur de recherche. Et le moteur de recherche de Google, il est gratuit. Hein, il est gratuit. Donc, par conséquent, si vous voulez, d'une part, Internet s'est recentralisé autour de quelques entreprises. Donc, en fait, il y a une sorte d'oligopole, c'est-à-dire un monopole. Et nous fournissons à ce monopole une quantité impressionnante de données, et ces données sont la matière première qui fait la richesse de Google.
Alors c'est quoi ? C'est des fichiers ?
C'est tout ce que nous faisons. Ouais. C'est-à-dire nos conversations, nos messages, nos photos,
C'est utilisé parce que ça permet d'établir des profils des utilisateurs.
Voilà,
de diriger vers ces personnes, oui, des publicités, des incitations, c'est ça ?
Oui, des publicités, des propositions de toutes sortes, de voyages, consommations, etc. Et aujourd'hui, on ne peut plus échapper à cette masse de sollicitations qui nous arrivent déjà en fonction des données que nous avons données.
Alors ce que vous soulignez quand même, c'est qu'il y a un large degré d'acceptation de la part du public, c'est-à-dire que le public accepte ça parce que précisément il attend d'Internet qu'Internet lui offre des services. À partir de quand est-ce qu'on franchit la ligne rouge là ? À partir de quand est-ce que ça devient intrusif ?
Voilà. Ce dont il faut bien prendre conscience, voyez-vous, c'est que d'une part, Internet s'est recentralisé. Ça, la société n'en a pas encore pris conscience. On continue de croire que Internet, c'est pas plus dangereux que le fait que, non pas maintenant, mais il y a quelques années, l'essentiel des téléspectateurs français regardaient TF1. C'est pas plus dangereux que ça. Seulement, et ça déjà c'était scandaleux, puisqu'il y avait une domination de TF1 en matière de prégnance intellectuelle, en matière d'influence, disons, sur les esprits, de la part de TF1. Mais finalement, TF1 ne savait pas si vous regardiez son émission. Et ne savait pas où vous vous trouviez quand vous regardiez votre émission. Ne savait pas combien de temps vous regardiez, vous, personnellement. Elle pouvait savoir, grâce à des bouchards, qui donnent les statistiques, combien de personnes ont regardé telle émission à telle heure, etc. Oui, mais elle ne savait pas si vous, monsieur André Dupont, vous avez regardé TF1, combien de temps, à quelle heure. Tandis qu'Internet le sait, ça. Google le sait. C'est ce que vous avez regardé, combien de temps vous avez regardé, à quel moment vous l'avez regardé, où vous étiez quand vous l'avez regardé, etc. Donc, et évidemment, ce n'est pas plus dangereux que ça. Mais peu à peu, Google peut avoir une connaissance extrêmement étendue. Et ça limite finalement cette idée que nous pouvions nous évader de la relation qu'on avait, mettons, à TF1. Et maintenant, on ne prend pas conscience qu'on a cette relation à Google. Je termine avec ceci, avec une autre idée. D'où ça vient, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est la rançon. C'est pas pour aller dans le sens de l'idée que vous disiez tout à l'heure, on le fait volontairement. C'est la rançon de la gratuité. Nous avons voulu Internet gratuit, parce que dès que ça a été payant, nous avons fui, massivement, bien entendu. Nous avons voulu un Internet gratuit. Or, il y a une loi en communication, quand vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Car si vous n'achetez rien, c'est vous qui êtes vendu. Hein? Et donc, par conséquent, peu à peu, voilà, en choisissant la gratuité, on est venu massivement de l'ensemble de la planète vers ceux qui avaient misé sur la gratuité pour accumuler cette matière première que sont nos données.
Mais alors, ce que je voudrais alors maintenant savoir, c'est cette masse de données qui est accumulée, alors par Google, par les GAFAM, c'est ça, par les agences, par la NSA, par la DGSE, par les services britanniques, patati patata, ça fait des masses monstrueuses. Mais qu'est-ce qui est réellement exploité dans tout ça? Parce que alors, finalement bon, c'est le sixième continent. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de tout ce fatras?
Alors, hein, parce que voilà. Alors Christophe, il faut dire effectivement que il n'est pas possible d'analyser le contenu de toutes ces communications. Impossible. Hein? Pour une raison simple, c'est que, comme vous dites, ça fait une masse telle qu'il faudrait des ordinateurs. Déjà, il y en a beaucoup. Hein? Je donne des chiffres. Hein? La NSA a un parc de 12 hectares. Vous voyez, 12 hectares, c'est à peu près 12 fois un terrain de football, d'ordinateurs, de super ordinateurs branchés les uns sur les autres. C'est le plus grand cerveau actif du monde. Aucun autre système n'a ça.
Formed, c'est ça?
À Formed, à côté de Washington. Hein? Donc, en Virginie. Et avec les radomes dont vous parliez tout à l'heure pour capter les communications par satellite. Donc, effectivement, ils ont des moyens colossaux. Mais on ne pourrait pas tout simplement lire les contenus. Mais en revanche, ce qui est recueilli et ce qui est conservé, ce sont ce qu'on appelle les métadonnées. Qu'est-ce que c'est les métadonnées? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est qui a appelé qui, pendant combien de temps, où se trouvait celui ou celle qui a appelé, où se trouvait celui et celle qui a reçu le message, hein, et voilà combien de temps a duré la conversation.
On n'a pas le topo de la conversation.
Non, on n'a pas le topo de la conversation. Mais comme on a la référence, il y a, si, par exemple, pour les vrais suspects, les métadonnées permettent de dresser de chacun d'entre nous une sorte de cartographie de nos communications. On sait qui vous appelez le plus souvent, etc., par définition, de chacun d'entre nous. Et donc, on fait une carte. Si un tel est soupçonné de quelque chose, eh bien, on va voir avec qui il est en relation. Hein? En sachant bien que, de toute façon, si vous voulez, le simple fait, il faut bien voir que nous ne pouvons pas échapper à cette surveillance. Ça ne veut pas dire qu'ils savent tout. Mais du moment que vous devenez suspect, pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, on peut écouter vos communications, bien entendu. Hein? On peut les écouter. Mais on ne va pas écouter les communications des 3 milliards et demi de personnes qui sont sur Internet. Mais si vous voulez, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus experts que moi en matière de communication, télécommunication, Internet, mais quand vous vous promenez avec votre téléphone dans la poche, hein, votre téléphone qui est activé, hein, votre téléphone, au fur et à mesure que vous circulez, votre téléphone, lui, il se branche de borne en borne. Sans rien vous dire, bien entendu. Mais pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une borne. Si vous allez au fin fond de la Lozère, il y a des endroits où il n'y a pas de borne. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de borne. Et en revanche, dans une ville ici hyper saturée, comme Bordeaux, eh bien, il y a beaucoup de bornes. Donc, et chaque fois que ce téléphone se branche à une borne, il laisse une trace. Je sais, en regardant la bande de cette borne, quels sont les téléphones qui se sont branchés aujourd'hui, ici, à telle heure, à tel moment précis, à cette borne-là.
Bon, donc on reconstitue des itinéraires, votre itinéraire.
On reconstitue. Vous ne pouvez pas dire « j'étais pas là ». En tout cas, vous, peut-être, vous n'étiez pas là. Votre téléphone, il y était. Vous ne pouvez pas dire « j'y étais » s'il n'y a pas de trace dans la borne. Ou alors, votre téléphone est éteint. C'est possible, hein, à condition qu'il soit éteint. Et s'il est actif, il va trianguler en permanence. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir à chaque instant, vous voyez, nous donnons sans le savoir quantité d'informations sur nous-mêmes. Et vous disiez tout à l'heure, pourquoi on est passé de la surveillance à l'époque de soviétique, où on ne se surveillait qu'entre espions, à la situation actuelle. Ce qui a changé, c'est le progrès technologique. C'est le fait que maintenant, nous avons tous des machines qui sont très faciles à pister.
Et alors, ce que vous dites aussi, c'est que, finalement, le projet assez fou, qui consiste à dire on va contrôler l'Internet dans sa totalité, c'est possible.
C'est possible, mais ce n'est pas ce que je dis. Vous avez vu le nombre de déclarations, etc., que je publie ici. Il y a un rapport de la CIA, vous voyez, qui est donné au président, et qui dit aujourd'hui, aussi cette idée, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises privées, les géants d'Internet, qui nous surveillent davantage que les agences. C'est pas la DST, c'est pas la Direction de la Surveillance du Territoire qui nous surveille en France. Parce qu'il suffit de regarder ce que vous fournit votre fournisseur d'accès. Hein, il a toutes les données de ce que vous avez fait. Et Google, bien entendu, a tout ce que vous avez fait dans l'intimité de votre utilisation. Ne croyez pas, même si vous effacez, c'est resté. Ce que vous avez fait reste. Quand vous l'effacez, ça n'apparaît pas, évidemment. Mais si on va chercher, d'ailleurs, dans le cerveau de votre ordinateur, on va trouver la trace. Hein. Donc, par conséquent, il n'y a pas façon d'y échapper aujourd'hui.
Hein. Alors, ce qu'il faut peut-être maintenant dire, maintenant que le système est bien établi, alors, évidemment, on vit dans des démocraties, a priori. Donc, une démocratie, elle protège, en principe, la vie du citoyen, elle protège les libertés. Les États-Unis, pour parler que d'eux, donc, ont une constitution où il y a des amendements qui fixent les libertés du citoyen. Donc, on est dans évidemment, une démocratie comme la démocratie américaine, la nôtre aussi, bien entendu, sont dans une forme de tension extrême entre la réalité de la surveillance et puis les droits des citoyens. Et donc, les tribunaux, quand ils sont saisis, forcément, ils vont probablement donner raison aux citoyens lorsque le citoyen se plaint. Alors comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que les agences, donc évidemment elles œuvrent dans une certaine clandestinité, mais enfin plus tellement finalement, le système commence à se voir. Donc aujourd'hui, comment est-ce que la surveillance peut être possible sans qu'on passe de la démocratie à la démocrature, je ne sais pas comment il faut dire, à la
démocratie. Oui, d'une part,
on sort de la démocratie,
effectivement, Christophe, d'une part, tout de même, soulignons le paradoxe que les auteurs qui avait dénoncé la possibilité d'un monde sous surveillance, Orwell en particulier, dans 1984, eh bien, imaginait que ce monde sous surveillance, une société sous surveillance, serait par définition une dictature. Et Orwell, dans 1984, ce qu'il dénonce, c'est, qu'il a écrit en 1948, c'est l'État stalinien. C'est l'Union soviétique sous Staline. Hein. Or, il se trouve qu'il n'y a jamais eu une société aussi surveillée que la nôtre. Et ça se passe en France aujourd'hui, une grande démocratie, aux États-Unis, une grande démocratie, et dans tous les pays, bien entendu. Hein. Donc, ce n'est pas incompatible avec la démocratie. Deuxième observation, effectivement, il y a maintenant, il y a eu les attentats. Les attentats du 11 septembre qui ont été monstrueux. Il faut rappeler que les attentats du 11 septembre, vous voyez, nous, la France est sous le choc après les attentats du 11 novembre. Les attentats du 11 novembre, évidemment, c'est énorme. C'est 130 morts et c'est 350 à peu près blessés. Les États-Unis, c'est 3000 morts. 3000. Hein? Et, je sais pas, 6000 blessés. Hein? Donc, évidemment, le pays a été sous le choc. Comme il y avait un gouvernement...
Enfin, l'Espagne qui vous est chère, c'était 191 morts. Hein,
Oui, 191 morts à Atocha, Londres, les métros de Londres aussi. Donc, ces pays-là, sous le choc émotionnel de la société, ont fait voter des lois qui ont donné à l'État, à l'appareil d'État, beaucoup de liberté, en jouant, finalement, sur ce que permet la Constitution, puisqu'il a été prouvé que la Patriot Act transgressait certains principes de la Constitution américaine, le montre le 4e amendement en particulier. Mais, voilà, sous le choc, la société l'a accepté. Après, beaucoup de crimes ont été commis au nom de ces lois, et aux États-Unis, on les a... Le Patriot Act s'est terminé, parce qu'il était voté pour une période. On voit bien en France, la loi renseignement a été votée sous l'émotion des attentats, l'état d'urgence, c'est sous l'émotion des attentats, tous les pays, l'Angleterre, etc., sont dotés de sortes de Patriot Act. Et donc, il y a ce débat au sein de la démocratie. C'est le débat que pose le livre. Hein. Est-ce que Il est évident que l'État a le droit de surveiller des délinquants. C'est évident que l'État a le droit de surveiller des suspects. C'est évident que l'État a le droit de protéger la société contre le terrorisme, qui est une abomination. Mais jusqu'où va le droit de l'État pour protéger la société? Est-ce que pour garantir notre sécurité, il faut que l'État transgresse notre propre droit? C'est pas, je dis souvent, si la sécurité, c'est la surveillance, hein, et si la sécurité, c'est la garantie de notre liberté, ce qui est vrai, les deux sont vrais. Seulement le syllogisme, vous voyez, ça donne, si la sécurité, c'est la surveillance, si la sécurité, c'est la liberté, c'est la surveillance. Or, la liberté, ça ne peut pas être la surveillance. Si je suis surveillé, je suis sous contrôle. Pour ça, je mets la définition de surveiller au départ du livre. Hein? C'est la définition du Larousse. Qu'est-ce que c'est surveiller, dit Larousse? Observer attentivement quelqu'un ou quelque chose pour le contrôler. OK? Donc, si je suis surveillé, je ne suis plus libre, puisque je suis sous contrôle. Hein? Donc, c'est la question qui est posée. Je ne dis pas comment on va la résoudre. Et d'autre part, ce qui est posé à la société, voilà ce que dit Snowden ou Assange, mais regardez leur destin. Un, depuis 3 ans, est sous protection à Moscou, et il est menacé de la peine de mort si les États-Unis le rattrapent. Et Assange est sous protection de l'Équateur, un tout petit pays à Londres. Deux personnes qui, tout ce qu'ils disent, c'est... la société a le droit tout de même de savoir jusqu'à quel point son droit à la vie privée est transgressé.
Vous avez interrogé aussi Noam Chomsky. Bon, lui, il vit aux États-Unis, je crois.
Il vit aux États-Unis.
En toute quiétude. Oui, enfin bon, ceci, ses propos sont de même nature.
Hein. Oui, de même nature. Et alors, ce qu'il dit, c'est voilà, c'est lanceur d'alerte, comme on dit, c'est lanceur d'alerte. Eh bien, ces lanceurs d'alerte ne seront protégés que dans la mesure où l'ensemble de la société prendra conscience de leur héroïsme, en quelque sorte. Prendra conscience du fait qu'ils se battent pour nous, pour nos droits. Je répète, il ne s'agit pas de dire que l'État n'a pas le droit de surveiller les délinquants. Mais bien entendu qu'il a le droit. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous délinquants. Et il n'y a pas de raison qu'on soit surveillé de la même manière. Or ça, la société n'en a pas pris conscience, parce que globalement, comme vous disiez tout à l'heure, globalement, les gens se disent, moi, j'ai rien à cacher, moi, ça m'est égal.
Mais ce que vous dites, c'est que quand on dit on n'a rien à cacher, on abdique une partie de liberté.
Voilà, d'ailleurs, à partir du moment où vous dites, j'ai rien à cacher, qu'on me surveille, mais c'est gravissime, parce que quelle est la différence entre la démocratie et la dictature? La dictature, c'est un régime qui vous surveille en permanence. Régime totalitaire, c'est ça une dictature.
Je voudrais vous poser juste une dernière question. C'est sur la résistance, parce que bon, finalement vous attachez pas seulement à décrire le système. Ce qui vous intéresse aussi, c'est de dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que est-ce que c'est un système qui nous dépasse tellement que c'est juste une fatalité. C'est quand même une tentation quand même qui existe, c'est-à-dire de dire bon bah voilà, c'est tellement puissant, qu'est-ce que je peux y faire moi avec mes petits bras musclés? Je peux pas faire grand-chose. Puis en plus j'en profite parce que Internet, ça me rend plein de services.
Oui, bien sûr.
Bon, alors vous venez de nous expliquer qu'il fallait quand même faire attention. Donc qu'est-ce qu'on peut concrètement faire à notre échelle ou échelle des associations de citoyens pour limiter les excès de la surveillance? Voilà.
Exactement, Christophe, et je crois que c'est très important. Alors la dernière partie du livre est là-dessus. Hein. Voilà, quelques recommandations et conseils. D'abord, d'une part, prendre conscience que nous avons le droit à une vie privée, le droit à une intimité, c'est un droit de l'homme. Et par conséquent, il faut tout de même, malgré tout, le protéger. Deuxièmement, il existe des outils qui nous permettent d'éviter d'être surveillés, si on veut se protéger. Il y a des logiciels qui permettent d'envoyer des emails, messagerie électronique, sans utiliser les messageries qui nous sont proposées et qui ne demandent pas une connaissance particulière en matière de chiffrement. Il y a également des applications pour des systèmes d'envoi de messagerie, de SMS, par exemple, de la même manière gratuit, parfaitement facile, etc., qui ne sont pas WhatsApp, qui ne sont pas la messagerie habituelle, et qui vous permettent d'échanger des messages sans être surveillé. Vous avez beaucoup d'associations. En France, il existe une excellente association qui s'appelle la Quadrature du Net, hein, qui travaille sur ces questions avec un site qui vous permet de vous tenir au courant. Je donne la liste un peu des associations qui existent. Évidemment, il y a la CNIL qui, normalement, devrait
je dois dire qu'une des vertus de ce livre, c'est qu'il y a toujours des notes en bas de page très extrêmement claires. Il y a c'est vrai que c'est
voilà, pour une documentation, le lecteur peut, s'il souhaite développer tel ou tel aspect, peut le développer. Et je voudrais terminer, si vous permettez, Christophe, sur cette actualité, n'est-ce pas, parce qu'on en a fait allusion d'une manière ou d'une autre, et ça concerne cette question-là. C'est, vous savez, le conflit qui est actuellement entre Apple et le FBI. Hein, vous savez, il y a un conflit aujourd'hui, vous avez lu dans la presse, hein, il y a un conflit entre Apple, c'est le fabricant de ces téléphones, et le FBI à propos d'un téléphone, ça c'est un 6, mais c'est l'iPhone 5, d'un des terroristes des attentats de San Bernardino. Vous savez, en Californie, il y a eu des attentats l'année dernière qui ont été faits par un couple, et ce couple a finalement été tué par la police, mais un téléphone a été récupéré. Et ce téléphone contient des données que la police, que le FBI, et le FBI, attention, nous ne parlons pas de la police municipale de Bordeaux, donc le FBI ne manque pas de moyens, hein, et le FBI n'arrive pas à lire les informations qui sont contenues dans ce téléphone. Donc la question se pose, voilà, le FBI demande à Apple, s'il vous plaît, permettez-moi de lire ce qu'il y a dans ce téléphone, et Apple refuse. C'est un débat qu'on suit, là, jour le jour. Et donc, par conséquent, c'est un peu la question que vous posez, parce qu'on pourrait dire, mais voilà, si on utilise Apple, on est protégé. Hein, bon. Alors, d'une part, il faut aussi observer que l'ensemble des grandes entreprises de la Silicon Valley, et notamment Google, se sont solidarisées avec Apple. Le seul qui s'est démarqué, c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Mais pas le patron actuel de Microsoft, qui s'est également solidarisé avec Apple.
Alors que c'est quoi ? C'est le début d'une scission entre du complexe sécuritaire.
Moi, je pense, Christophe, d'une part, comment on l'interprète ? On est là pour interpréter, on n'a pas la réponse. Hein, parce que Tim Cook, qui est le successeur de Steve Jobs, c'est le patron d'Apple. Hein, moi, je pense que d'une part, ces entreprises sont de plus en plus sensibles à ce que nous disons, c'est-à-dire que nous avons droit à la protection de nos données et qu'on ne peut pas permettre que nos données soient ouvertes à la lecture de n'importe quelle agence de renseignement, etc. Il ne s'agit pas de cacher des choses graves, il s'agit tout simplement de cacher quand j'écris à ma femme, quand j'écris à mes enfants, etc. Je n'ai pas envie qu'on lise. Le courrier, c'est sacré. C'est le paradoxe d'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est que si vous envoyez une lettre par la poste,
c'est beaucoup
elle
plus sûr.
Est infiniment plus protégée.
Remettez-vous à écrire, remettez-vous à écrire, voilà,
comme
et à lire.
Besancenot, revenez à la poste.
Et à Gutenberg.
Voilà. Et d'une part, il y a cette idée-là. Les entreprises Silicon Valley se rendent compte que ce n'est pas populaire d'avoir des instruments où chacun peut entrer, comme on disait tout à l'heure, et voir, lire, comme dans un livre ouvert, notre vie intime. Deuxième aspect, je crois que c'est très important, ça je ne l'ai pas lu nulle part, c'est moi qui déduis, si vous voulez, qui est-ce qui tient à protéger ces communications ? Vous voyez, parce qu'on a l'esprit déformé avec les attentats et tout ça. On ne pense qu'au terrorisme, mais qui est-ce qui, dans le monde réel, disons, qui est-ce qui tient à la protection des communications ? Bien, les gens qui tiennent réellement à la protection des communications sont essentiellement les entrepreneurs, les secrets de fabrication. C'est les financiers, les banquiers qui communiquent des informations capitales, des informations qui valent des milliards, puisque ça fait bouger la bourse. Hein ? C'est évidemment les dirigeants politiques. Dirigeants politiques, c'est très important. Les militaires.
On a vu d'ailleurs qu'Angela Merkel
était
surveillée par la NSA.
Était surveillée, était surveillée. Bon, et je donne beaucoup d'exemples. Hollande était surveillée, le téléphone de Hollande était surveillé. Et donc, ça fait des centaines de milliers
de gens,
de personnes dans le monde. Ça fait des clients pour Apple. Qu'essaie de dire Apple ? Apple essaie de dire, voilà, vous tous, qui est dans la nécessité de communiquer d'une manière sûre. Jusqu'à présent, vous aviez un instrument qui était très sûr, car tous ces gens dont on parle, ils communiquaient avant avec un petit téléphone qui était très très sûr, qui s'appelait le BlackBerry. Le BlackBerry, très peu utilisé en France, mais utilisé par tous les appareils politiques, de tout le monde. BlackBerry, c'est un téléphone d'une marque RIM canadienne, mais qui a fait faillite. Et donc les téléphones aujourd'hui, les BlackBerry, bon, les gens continuent d'utiliser les BlackBerry, mais ils ont deux générations de retard. C'est à l'époque du 4S.
Sauf que le BlackBerry était crypté.
Le BlackBerry était crypté. Voilà. Et le BlackBerry était plus difficilement déchiffrable que les téléphones qu'on utilise actuellement. Donc, qu'essaie de dire Apple, cher Christophe ? Il essaie de dire un message qui est envoyé actuellement dans ce débat à l'ensemble de ses clients qui sont restés sans leur outil, c'est de dire, venez chez moi, personne ne pourra lire vos communications.
Hein? Je vais ressusciter BlackBerry.
Je vais ressusciter BlackBerry. Je suis une autre forme de BlackBerry. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la justice américaine s'y met. Parce que ce conflit entre le FBI et l'iPhone est un conflit qui a été déclenché il y a à peu près 3 semaines. Mais la semaine dernière, il y a eu un autre conflit à New York entre, si vous voulez, un trafiquant de drogue et la police, cette fois-ci la police normale, qui voulait accéder à la connaissance d'un téléphone 4S, cette fois-ci. Hein? Et on demandait la même chose à Apple. Et le juge, cette fois-ci de la justice américaine, a tranché en disant que Apple n'était pas tenu à donner ces informations. Que le rôle d'Apple, c'était de protéger les communications de ses usagers. J'ajoute qu'il ne s'agit pas de demander à Google d'entrer dans le téléphone, de lire. Non, il s'agit, ce que demande le FBI, c'est de mettre au point un logiciel qui n'existe pas. C'est ça que doit faire Apple. Inventer un logiciel qui n'existe pas et qui fonctionnerait comme une sorte de clé maîtresse. Vous savez, une clé qui sert à tout, un passe-partout, que la police pourrait utiliser à son gré. Donc, disposerait la police, et puis si un jour, mon cher Christophe, tu deviens suspect, on viendrait regarder. Et donc, il ne s'agit pas de demander à Apple, faites ce que vous savez faire. Non, c'est inventer ce que vous ne savez pas faire encore. Et c'est pour ça que le refus d'appel est relativement facile, puisqu'il ne dispose pas de ce
passe-partout. Ouais. Les justifications du système, quand même, du système de surveillance, parce que bon, on a bien vu la mécanique, on a bien vu les logiques, mais au fond, bon, il faut bien que ce système énorme, qui coûte très cher quand même,
oui,
ça coûte très cher, ça emploie des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, il faut les payer ces gens-là. Oui. Alors donc, on justifie comment, donc au nom évidemment de la surveillance, de la lutte contre le terrorisme, mais néanmoins, le rapport coût-efficacité étant plutôt sujet à caution. Comment est-ce qu'on justifie en haut lieu, je veux dire, l'existence d'un système qui finalement est d'une efficacité ou difficile à mesurer ou voire douteuse. Et à côté de ça, comment est-ce que les pouvoirs qui sont mis en cause aujourd'hui par la protestation des citoyens continuent à justifier ce système, arrivent à le justifier dans un contexte où il y a de plus en plus d'actions judiciaires qui vont être de plus en plus risquées, finalement.
C'est vrai. Alors, c'est très juste, cette réflexion. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison, c'est-à-dire la question, pourquoi on nous surveille ? Voilà. Quel est l'objectif de cette surveillance ? Et est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'il faut bien voir que, évidemment, de plus en plus, les moyens mobilisés pour surveiller l'ensemble de la population, car c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de surveiller les 7 milliards d'habitants de la planète. Hein, les moyens sont considérables. Alors,
la NSA, c'est combien ? 150 000 personnes ?
La NSA, c'est 70 000 agents.
70 000 agents ?
Oui, 70 000 agents, voilà, avec un budget qui est colossal, on l'ignore, on ne le connaît pas. Hein. Donc, 70 000 agents, vous voyez un peu, c'est plus que la partie opérationnelle de l'armée française, hein, donc, qui est quand même, disons, la troisième ou la quatrième armée du monde. Hein. Donc, essentiellement, je dirais qu'il y a deux réponses à cette interrogation hein, que je donne dans le livre. La première tient à la nature même de l'État moderne. Hein. Comme je disais tout à l'heure, l'État moderne, la caractéristique de l'État moderne, c'est le contrôle de la société. Au fur et à mesure que les États, l'État est une invention récente, hein, l'État est une invention du XVIIe siècle, hein, et donc qui s'est affirmé tout au long des trois derniers siècles, en quelque sorte, et en particulier tout au long du XXe siècle. Et essentiellement, l'État a toujours voulu avoir, c'est une tendance naturelle de l'État, un contrôle de plus en plus grand de la société. Contrôle de la société veut dire savoir exactement qui est qui, où il se trouve, qu'est-ce qu'il fait, combien il gagne, etc. Pour toute une série de raisons.
C'est pour lever l'impôt, ça. C'est pour,
non, pas seulement pour
organiser
l'impôt.
La conscription.
Non.
C'est pour...
Alors, globalement, la promesse de l'État, c'est la suivante. Mieux je vous connais, mieux je peux vous servir.
Et vous protéger.
Et vous fiscaliser, etc. Bon, évidemment, mais bon, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. Hein, pensez qu'au XIXe siècle, au moment où cet État-là, cet État de contrôle, cet État sécuritaire, aujourd'hui l'État de surveillance, car nous vivons maintenant dans des États de surveillance, hein, tels que les avait imaginés et craints Orwell, eh bien cet État, tout de même, c'est au XIXe siècle qu'on invente des disciplines universitaires destinées au contrôle, bien entendu, noble par ailleurs, la sociologie, par exemple. Ça n'existe pas avant. Hein? L'ethnographie, hein? Qui a été la science coloniale par définition. Hein? Voilà. L'anthropologie. Hein? Donc ces sciences-là sont des sciences de la description exacte de la société. Ensuite, les statistiques, voilà, les sondages,
l'économie,
la maquette de la société. Les sondages, c'est une maquette de la société. Hein? Faire un modèle réduit de la société. Viens savoir, presque scientifiquement, voilà, avec un modèle réduit, je prends 2000 Français, je sais ce que pensent 60 millions de Français. C'est quand même formidable. Hein? C'est une science. Bon. D'une part, la réponse, c'est l'État trouve, comme ça, dans l'inconscient de l'État, je ne dis pas que c'est la volonté de M. Valls, mais je dis l'inconscient de l'État, c'est augmenter l'emprise de l'État sur la société. Et les attentats, objectivement, fournissent l'argument de cette avancée permanente. Hein. Donc, parce que la France n'a pas besoin, disons, la France a un arsenal de lois antiterroristes très ancien. Le terrorisme, ce type de terrorisme a été inventé à la fin du 19e siècle. C'est les attentats anarchistes. Hein. Et globalement, l'État s'est doté de lois depuis l'époque. Ensuite, dans les années 60, il y a eu toute la législation antiterroriste liée à la guerre d'Algérie. Donc il y a un grand arsenal. Ensuite, Action Directe, etc. Ensuite, Carlos et les attentats liés aux affaires du Proche-Orient. Donc, il y a un arsenal. Mais bon, on voit que l'État se donne des lois nouvelles, etc. en permanence. Et c'est comme ça partout. Ce n'est pas spécifique à la France. La première explication, donc, elle est d'ordre, disons, politique, hein, de théorie politique. La deuxième explication, je dirais, elle est d'ordre pratique. Elle est, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à faire ce que moi j'appelle, dans le livre, ce que j'appelle une sorte de justice prédictive. Prédictive, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je cite dans le livre, vous voyez, de la même façon que cette fiction qu'est 1984 nous sert de repère, car il n'y en a pas d'autre qui est décrit avec une telle précision, voilà, un univers de la surveillance, que ce roman-là, eh bien, il y a aussi une nouvelle d'un génie écrivain de la science-fiction qui s'appelle Philip K. Dick, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Minority Report, qui est un film, qui a donné lieu à un film de Spielberg qui s'appelle Minority Report, avec Tom Cruise. Pas si vous l'avez vu, certains l'ont vu, je le rappelle dans le livre. Et Spielberg, en particulier dans son film, imagine une société voilà, où on dispose de tous les renseignements sur tout le monde, au point que si on sait exactement ce que pense chacun, si on sait exactement ce que fait chacun, je suis en mesure, en recoupant toutes ces données dans des ordinateurs gigantesques, de savoir exactement à quel moment un tel va commettre tel délit. Et donc, je vais pouvoir intervenir juste avant qu'il le commette.
Bon, c'est une idée délirante.
Une idée délirante. Mais c'est sur cette idée que nous fonctionnons aujourd'hui. Comment je vais interdire ? Écoutez, nos dirigeants, que dit le ministre de l'Intérieur de temps en temps quand on lui dit « Mais vous ne trouvez pas quand même que ces lois, l'état d'urgence, c'est un peu exagéré, et nos libertés, etc. » Vous avez le ministre de l'Intérieur qui dit « Écoutez, c'est tout de même grâce à ces mesures que la semaine dernière, ou au cours des dernières semaines, nous avons pu
déjouer
3-4 attentats. » Voilà la justice préventive. Vous avez le Premier ministre qui dit la même chose. Il intervient au Parlement. Oui, ces lois paraissent difficiles, mais enfin, c'est grâce à elles que
évidemment,
nous avons
c'est
déjoué 3 attentats.
Et c'est difficile à démentir.
C'est difficile à démentir. Et c'est très convaincant. La société se dit « Bon, si c'est ça, je suis prêt à ce qu'on me surveille. » Vous comprenez ? Qui va résister ? Hein, vous voyez, si c'est intimidant. Or, les lois, elles sont faites pour rester. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement démocratique. Et si demain, nous avons un gouvernement moins démocratique, comme tu disais tout à l'heure, hein, nous avons une démocrature, hein, qui est possible. Il y a des élections l'année prochaine. Hein. Bon, ces lois restent. Vous savez combien de temps ont duré les lois qu'on a appelées les lois scélérates ? Et on les a appelées les lois scélérates, pas pour rien. C'est les lois qu'on avait faites pour combattre le terrorisme anarchiste. En 1890, on a fait les lois scélérates. Elles ont duré jusqu'en 1982.
Il y avait un président de la République qui avait été assassiné quand même. Hein.
Oui, bien entendu. Il y a eu des attentats terribles. Il y a eu une bombe à la Chambre des députés.
Oui.
Il y a eu des attentats sur les terrasses des cafés. Premier attentat aveugle de l'histoire. Hein. Bon, qui avait été commis, je me souviens de l'anarchiste, je crois que ça s'appelait Émile Henry, ou quelque chose comme ça. Bon. Mais ces lois ont été utilisées par Vichy.
Donc elles n'ont été abrogées qu'un siècle plus tard.
En 1982, un siècle plus tard à peu près.
Donc quand on vote une loi, il faut savoir que ça va suivre...
La loi renseignement, elle peut durer un siècle. Et on ne sait pas ce qu'il y aura au cours d'un siècle. On espère qu'il n'y aura que la démocratie, bien entendu.
Eh bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse avec Ignacio Ramonet, l'Empire de la surveillance chez Galilée.
Merci.